Juliette de Dieu le veut, bonjour et bienvenue à Radio Maria France dans notre beau studio de Paris. Et merci de nous introduire chez ce maître parmi les maîtres, Saint Augustin.
Merci Olivier. Tu nous as fait orienter vers toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. L'auteur de ces paroles bien connues, qui a donné naissance à un chant, est Saint Augustin. Alors, si l'on essaye de le résumer en trois mots, que dirait-on de lui? Un saint? Un père de l'Église? Le docteur de la grâce? Oui, c'est bien, c'est très canonique. Un auteur? Un interprète des Écritures? Un théologien et un pasteur? Oui, tout cela est vrai. Ou bien encore, tout simplement, un homme? Infime parcelle de la création. Puisque c'est ainsi qu'il se définit lui-même, au début des confessions, son ouvrage le plus célèbre et le plus singulier. C'est aussi sa position à cheval entre le monde chrétien et le monde antique, entre l'hagiographie et le récit de soi, entre la sainteté et le péché, entre la grâce et la nature, qui fait d'Augustin un être si fascinant, si attachant, si vivant. Oui, Augustin est vivant, pas seulement dans la communion des saints, pas seulement dans les bibliothèques ou à travers les livres et les thèses qui lui sont continuellement consacrés depuis des siècles, mais aussi dans les cœurs, comme un ami, un guide spirituel, dans les esprits, par sa langue somptueuse et la puissance théologique de ses œuvres, dans la prière, la liturgie, les chants. Alors si cette série d'émissions peut vous faire connaître Augustin dans la diversité de ses visages et vous permettre de lui donner dans votre vie quotidienne, dans la prière comme dans la mission, la place d'un guide, d'un confident et d'un ami, alors elle aura atteint son but. Dans cette première émission, je vous propose de parcourir en quelques dates la vie d'Augustin et son œuvre. Alors, pour ce qui touche à sa vie, que nous présenterons d'abord, on a beaucoup de chance puisque Augustin en a fait le récit lui-même, en tout cas pour ses 30 premières années. La première source, donc, pour connaître la vie d'Augustin, né en Afrique en 354 et mort en 430, c'est le récit des Confessions, écrit autour de 397. Qui retrace à grands traits sa vie, depuis sa naissance, jusqu'à son accession à l'épiscopat. La deuxième source, pour connaître la vie d'Augustin, c'est un ouvrage biographique composé vers 432 par un certain Posidius, évêque de Calame, en Numidie, en Afrique, qui, après avoir été disciple d'Augustin, l'a suivi tout au long de son existence, jusqu'à son ordination, et à composer une vie qui permet de se faire une bonne idée du quotidien d'Augustin avec des détails précieux pour se le représenter au travail, durant les repas ou dans la vie communautaire. Pour cette première émission, je m'appuie sur deux biographies, celle de Peter Brown, qui est parue en 1971 et qu'on trouve en livre de poche, et celle de Serge Lancel, parue en 1999 chez Fayard. Alors, première partie, qui est Saint Augustin? Je vous propose de parcourir sa vie en une dizaine de dates importantes. Première date, 354, Augustin naît à Tagaste. Tagaste est aujourd'hui une petite bourgade qui s'appelle Souk Arras, aux confins de l'Algérie et de la Tunisie. À l'époque, Tagaste est un municipe, c'est-à-dire une commune de plein exercice, en Numidie, qui est une province romaine située sur la côte africaine, province christianisée depuis le IIe siècle après Jésus-Christ. Augustin est l'un des trois enfants de Monica et Patricius, qui est un petit exploitant agricole qui a aussi des responsabilités dans la ville. Sa mère, Monique, est chrétienne. Son père, bien que païen, et il recevra le baptême plus tard, ne fait pas obstacle à ce que Monique donne une éducation chrétienne à leurs enfants. Peu après sa naissance, Augustin reçoit la marque de l'entrée en catéchuménat, le signe de la croix, le grain de sel sur les lèvres. Et lors d'une grave maladie d'enfance, il supplie sa mère de recevoir le baptême, mais il guérit et son entrée dans l'église est différée. Pourquoi ? De peur qu'il ne commette par la suite des péchés graves qui lui feraient perdre la grâce reçue au baptême. Comme il l'écrit dans les Confessions, on disait alors « Laisse-le faire, il n'est pas encore baptisé ». Augustin raconte à grands traits son enfance dans le premier livre des Confessions. D'abord bébé, en latin on dit « infants », celui qui ne parle pas. Je cite « Car en ce temps-là, je ne savais que téter, m'apaiser ou pleurer. Je commençais ensuite à rire. » Les pages des Confessions consacrées à l'enfant sont d'une grande modernité. Augustin s'interroge sur la vie anténatale. Il évoque avec tendresse l'allaitement. Il décrypte les premiers rudiments du langage chez le bébé à travers les pleurs, les gestes, l'expression du visage. En somme, il se montre pédiatre et pédopsychiatre avant l'heure. Le récit de son enfance, enfant se dit en latin puer, racine que l'on retrouve en français dans l'adjectif puéril, le montre faisant l'apprentissage du langage d'abord à la maison, puis à l'école. Augustin apprend à lire, écrire, compter, la base de l'instruction. Curieux et vif, il n'aime pourtant pas l'école, à cause de la brutalité des maîtres et des châtiments corporels. Il le raconte dans les Confessions, toujours dans le premier livre. Je cite. Petit garçon, je priais Dieu avec une grande ardeur de n'être pas battu à l'école. Et quand il ne m'exauçait pas, on riait. Les grandes personnes, et jusqu'à mes parents eux-mêmes, qui ne voulaient pourtant pas qu'il m'arrivât le moindre mal, se riaient des contusions qui, à mes yeux, constituaient alors un grand et pénible mal. Dans ces conditions difficiles, Augustin révèle rapidement son intelligence, son génie inventif, son talent. Ces trois qualités sont dites en latin par un mot unique, ingenium, qui désigne ce qui est le plus propre à une personne, son caractère unique. Dès l'enfance, Augustin se distingue de ses condisciples par une forme de génie. Ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour favoriser sa réussite, dont ils espèrent bien profiter eux aussi, puisqu'à l'époque, les études littéraires sont le meilleur chemin vers l'obtention de postes prestigieux. Augustin fait d'excellentes études primaires, puis secondaires dans sa ville de naissance, d'Agaste. Il étudie principalement les auteurs latins classiques, Virgile, Cicéron, Salluste, Terence. Par contre, l'apprentissage du grec est un échec total. Il sera le seul philosophe latin de toute l'Antiquité à ignorer pratiquement le grec. Enfin, après une année d'interruption, faute de financement, il termine son cursus dans la ville de Carthage. C'est notre deuxième date, 370, Augustin étudiant à Carthage. Alors voici comment, âgé de 16 ans, Augustin raconte son arrivée à Carthage, qui est, pour se faire une idée, la deuxième ville en taille et en importance de la Méditerranée occidentale, loin derrière Rome, il est vrai. Je cite le livre 3 des Confessions. « Et je vins à Carthage, partout autour de moi, crépitait la chaudière des honteuses amours. Je n'aimais pas encore, et j'aimais à aimer. Je cherchais quoi aimer, amoureux de l'amour. » Son éducation est tout entière orientée vers la maîtrise de la parole. Le but est d'acquérir l'éloquence, absolument indispensable pour persuader et pour développer ses pensées. Augustin retire de cette éducation une mémoire extraordinaire, une attention persévérante aux détails et un art véritable d'ouvrir son cœur. Pleurer et faire pleurer, c'est un des buts de l'orateur. Troisième date, 376, Augustin devient professeur de rhétorique à Carthage. Âgé d'une vingtaine d'années, il passe insensiblement du statut d'étudiant à celui de professeur. Je cite le début du livre 4, « Ces années-là, j'enseignais l'art de la rhétorique et je vendais le verbiage qui permet de vaincre, vaincu que j'étais moi-même par la cupidité. » On ne le sait pas toujours, mais à cette époque, Augustin rencontre une femme dont on ne connaît pas le nom. Elle sera sa concubine durant près de 15 ans. Et il aura d'elle un fils, nommé Adeodatus, c'est-à-dire donné par Dieu. Ce jeune homme, mort à 18 ans, avait une intelligence presque effrayante, selon son père, et il donne la réplique à Augustin dans un dialogue de jeunesse qui s'appelle « Du maître ». Je précise que dans la société romaine, le concubinat est avec le mariage un des états de vie de couple licite, voire respectable, bien qu'il soit considéré comme inférieur au mariage, et ce dernier, dans le christianisme antique, inférieur au célibat pour le royaume. Durant cette période de 9 ans, de 19 à 28 ans, Augustin devient auditeur dans la secte des Manichéens. Qu'est-ce que cela signifie ? Au sein de l'Église d'Afrique, une secte a pris une place importante. On nomme ses adeptes les Manichéens, d'après le nom du fondateur de la secte, Mani. Ce dernier, né en 216 après Jésus-Christ, en Babylonie, grosso modo au sud de Bagdad dans l'Irak actuel, et judéo-chrétien par son père. Il meurt en 277 après avoir été supplicié. Et en mémoire de sa mort, sa passion, entre guillemets, sera célébrée chaque printemps par ses disciples. Cet homme, Mani, avait reçu dès l'âge de 12 ans des visions et des révélations. Une fois transcrites par ses disciples, elles deviennent la matière d'une gnose. Une gnose est un savoir ésotérique qui suppose une initiation pour y accéder. La principale caractéristique de cette gnose est le dualisme, ou encore l'opposition entre le bien et le mal, les ténèbres et la lumière, l'esprit et la matière. Donc la religion manichéenne, dans laquelle Augustin, je le rappelle, est entré pendant une dizaine d'années, se déploie suivant trois axes. Le premier, une doctrine qui est fondée sur des textes sacrés, les écrits attribués à Mani, mais aussi des textes liturgiques, au nombre desquels le psautier manichéen, dont les hymnes ont séduit Augustin, une cosmogonie, c'est-à-dire une vision du monde, et enfin une théologie extrêmement complexe. Ça, c'est pour la doctrine. Deuxième aspect, une église, avec des évêques. Par exemple, l'évêque Faustus, qui est présenté au livre 5 des Confessions, et contre lequel Augustin écrira un ouvrage. Donc une église avec des évêques, avec une hiérarchie, en particulier au sommet les élus, à la base les auditeurs, dont Augustin fait partie, je l'ai dit, durant 9 ans. Troisième aspect de cette religion manichéenne, un réseau d'influence qui favorise ses membres et ses sympathisants, qui les finance, qui les loge, qui soutient leur candidature. Ce sera le cas d'Augustin, soutenu par le préfet de Milan, Symmac, comme candidat à la chaire de rhétorique de la cité. 384, Augustin, titulaire de la chaire de rhétorique à Milan, qui rencontre également l'évêque Ambroise. Prenons conscience du fait que cette charge est extrêmement prestigieuse. Augustin est arrivé à Rome vers 382. Il habite chez un auditeur manichéen et il fréquente les élus. Et ce faisant, il attire l'attention du préfet de la ville, Symmac, qui est alors chargé de recruter un professeur de rhétorique pour la cité de Milan. Symmac recommande Augustin. Il faut savoir que la cour impériale résidait à Milan et que les professeurs de rhétorique étaient chargés de prononcer les éloges officiels de l'empereur et des consuls de l'année. Ces discours devaient être soigneusement conçus parce qu'ils servaient de diffusion des programmes de la cour, de sorte que le rhéteur de l'année devenait en quelque sorte un ministre de la propagande. Milan était à l'époque le lieu d'une société brillante, avec des poètes, des philosophes. On lisait les œuvres des platoniciens, de Platon, de Porphyre. Ambroise avait des discours extrêmement savants, inspirés de ses auteurs. Donc pendant un an, Augustin va se jeter dans cette vie avec toute son énergie, toute son ambition. Mais la ville de Milan restera marquée dans son esprit, principalement par la rencontre avec l'évêque Ambroise. L'évêque de Milan a en effet fait deux gestes décisifs pour Augustin. Le premier, il l'a initié au sens spirituel de l'écriture, ce qui a permis de lever l'obstacle majeur pour lequel Augustin était empêché de lire la Bible, car il était choqué par le sens littéral des récits qu'il lisait. Deuxième geste, Ambroise instruit Augustin des plus importants aspects de la foi chrétienne au cours des catéchèses baptismales qu'il donne et il le baptisera dans la nuit de Pâques 387, avec son fils Adéoda et son meilleur ami Alypius. J'arrive à la date la plus importante de cette série. Nous sommes en 386 et c'est le moment de la pleine conversion d'Augustin à la foi catholique reçue dans l'enfance. Cet épisode est un des sommets des confessions. On le nomme la scène du jardin à Milan, puisque c'est dans un jardin, à Milan, dans une maison qu'on lui a prêtée, qu'Augustin se convertit pleinement, décide de changer de vie, d'être baptisé, de se mettre au service du Christ, de se détacher des liens du mariage et des honneurs. C'est un épisode tellement important que j'y consacrerai beaucoup de temps dans une émission le mois prochain. Je continue. Dans cette période, Augustin, qui est encore catéchumène, va s'octroyer une petite période de vacances littéraires, culturelles, dans une maison qu'un ami lui prête, dans un lieu qui s'appelle Cassisiacum. Donc on se trouve à l'automne, il choisit quelques amis, il emmène également sa mère, et se met à disposition de Dieu pour mener la vie chrétienne à laquelle il aspire. Monique, comme il se doit, est en position de maîtresse de maison, mais elle est aussi présente dans certains dialogues. Cette retraite culturelle, notons-le, est une tradition ancienne. On la nomme en latin « otium liberale ». Le mot « otium » a donné les mots en français « oisif » et « oisiveté », mais il n'a rien du caractère un peu dépréciatif du français. Ne rien faire, dans l'Antiquité, c'est un idéal, puisque cela permet de s'adonner à la lecture, à la philosophie, à la conversation, à la quête de la vie heureuse. Disons-le aussi, c'est un petit peu l'apanage des riches. Et en cette matière, Augustin a la chance de bénéficier de généreux mécènes. Un tel cadre a donné aux premières œuvres d'Augustin une qualité unique, la face ensoleillée de sa pensée et le charme raffiné de ses relations personnelles, comme l'écrit son biographe Brown. Il est ouvert, comme il le sera rarement plus tard, aux beautés naturelles qui l'entourent et particulièrement à la lumière à laquelle il est extrêmement sensible. Je l'ai dit, Augustin est baptisé en 387 dans la nuit de Pâques par l'évêque de Milan, Ambroise. C'est aussi l'année où meurt sa mère, Monique. Alors, la brièveté de la mention du baptême dans les confessions « et nous fûmes baptisés », lit-on, ne doit pas faire minimiser l'importance de l'événement. Et pour qu'on se le représente un peu mieux, je vous donne la description du baptême tel qu'il se passe au IVe siècle. Première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on baptise principalement des adultes qui sont convertis du paganisme. On peut citer l'exemple dans les confessions de Marius Victorinus, lui aussi un rhéteur très connu, rhéteur de la ville de Rome, dont Augustin raconte la conversion puis le baptême. Alors suivons le récit de Peter Brown pour se représenter cette nuit de Pâques 387. Augustin, accompagné des autres competentes, en latin, ceux qui demandent le baptême, se rend en procession au baptistère qui jouxte la grande basilique. Passant derrière des rideaux, Augustin descend, seul, complètement nu, dans une cuve profonde remplie d'eau. Et là, par trois fois, Ambroise le plonge dans l'eau en disant la formule rituelle « Je te baptise au nom du Père, immersion, et du Fils, immersion, et du Saint-Esprit, immersion. » En grec, le verbe « baptiser » signifie, en effet, « plonger, immerger ». Comme tel, ce baptême est physiquement et spirituellement vécu comme une mort et une résurrection. On meurt, la suffocation d'être plongé dans l'eau, et on ressuscite à chaque fois que le baptisé sort de l'eau et que l'on prononce sur lui le nom d'une des personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. C'est exactement ce que résume saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 12. Je cite « Enseveli avec lui dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscité, puisque vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité, le Christ, d'entre les morts. » Je poursuis le récit du baptême. Après cette immersion, cette triple immersion, une fois baptisé, revêtu d'une robe blanche immaculée, Augustin entre dans la grande basilique, resplendissante de l'éclat des cierges et parmi les acclamations de la communauté. Il prend place, en même temps que les autres néophytes, ce qui veut dire littéralement les nouvelles pousses, les nouveaux baptisés, sur une estrade, à côté de l'autel, et participe pour la première fois au mystère de l'Eucharistie. Nouvelle date, 391, l'appel au sacerdoce. Alors, ça pourra peut-être vous étonner, mais Augustin n'avait pas de vocation sacerdotale. Son appel le portait davantage vers la vie monastique. Et il évitait même de se rendre dans les villes dont le siège était vacant, le siège épiscopal était vacant. Un jour, il arrive à Hippone, cherchant un lieu où établir un monastère et se consacrer à la lecture des Écritures. L'évêque du lieu, Valérius, dit à l'assemblée qu'il a besoin d'un prêtre pour le seconder. L'assemblée s'écrit « Augustin » et il est ordonné sur le champ. Valérius, par miséricorde, met à sa disposition un jardin dans l'enclos paroissial afin qu'il puisse y édifier le lieu pour vivre en communauté avec ses frères, selon l'idéal de la communauté primitive de Jérusalem décrite dans les Actes des Apôtres. Je cite « Or tous ceux qui avaient cru avaient un seul cœur et une seule âme, et nul ne disait être sienne aucune de ses possessions, mais toutes choses étaient communes entre eux. » Actes 4, verset 32. De prêtre, Augustin va devenir évêque. Évêque d'Hippone, donc cette ville dans laquelle il était arrivé un petit peu par hasard. C'est en 396 qu'Augustin accède à l'épiscopat et prend la succession de Valérius. Cette activité de pasteur, on la connaît principalement par le témoignage des sermons, bien sûr, mais aussi par les livres 10 et 11 des Confessions. Alors je vous lis trois phrases importantes pour comprendre cela. La première. « C'est donc à ceux que tu m'as ordonné de servir, dit Augustin, que je vais me dévoiler, non pas tel que je fus, mais tel que je suis maintenant. » C'est au livre 10. Le mot à retenir ici est « servir ». Le ministre du culte, celui qui a reçu un ministère, se fait serviteur, à l'image du Christ et selon son enseignement. Deuxième phrase, « Le Christ qui s'est donné en rançon pour moi, c'est lui qui est l'objet de mes pensées, c'est lui qui est ma nourriture et ma boisson, c'est lui qui est la richesse que je dispense. » Le mot important dans cette phrase est « dispenser », c'est-à-dire « donner, répandre ». Il s'applique particulièrement aux sacrements, notamment l'Eucharistie. Et on retrouve ce verbe au livre 11 des Confessions, cette fois associé au verbe « prêcher ». C'est ainsi qu'Augustin résume les deux principales tâches de l'évêque, prêcher la parole de Dieu et dispenser les saints mystères, dont l'Eucharistie. Je cite cette phrase du livre 11. Ma plume suffira-t-elle à énumérer toutes les exhortations, toutes les terreurs, consolations et directives par lesquelles tu m'as amené à prêcher ta parole et dispenser tes saints mystères. C'est une grande qualité d'Augustin que son humilité. Il ne cherche pas la lumière ni les honneurs, il ne se met pas au-dessus du peuple dont il a la charge. En témoigne cette formule célèbre, prononcée à l'occasion de l'anniversaire de son ordination épiscopale. « Pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien. » Sermon 340. Avant, dernière date, 410, c'est une date historique très importante, le sac de Rome par les Visigoths mené par Alaric. Une horde de barbares déferle sur Rome, la pille, la met à sac. En 410-411, commence une controverse avec un personnage important dans la vie d'Augustin qui est Pélage. Pélage est un moine à la réputation d'ascète venu à Rome depuis la Grande-Bretagne et entouré de nombreux disciples qui admirent sa discipline de vie. Il arrive à Carthage justement après le sac de Rome. Ce qui le caractérise, c'est que l'idée du péché originel, rendant les hommes à jamais incapables de ne plus pécher, lui paraît totalement absurde. Augustin raconte dans « Le don de la persévérance » que Pélage fut tout près d'en venir aux mains avec un évêque à cause d'une prière que l'on trouve dans les confessions à 4 reprises. Cette prière, la voici, « Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux ». Ce que Pélage récuse dans cette prière adressée à Dieu est ce qui lui semble être la passivité de l'homme vis-à-vis du salut. Il est quant à lui convaincu que l'homme peut se sauver par lui-même, sans l'action préalable de la grâce divine. Un autre point de désaccord entre Pélage et Augustin porte sur la nécessité ou non du baptême des petits-enfants. C'est une question qui est étroitement liée à celle du péché originel, puisqu'un nouveau-né, a priori, ne saurait avoir commis de péché personnel. 413, Augustin publie les 3 premiers livres de la Cité de Dieu, qui est définie par lui comme une œuvre grande et ardue. C'est une vaste fresque de l'histoire du salut, inscrite dans une opposition entre paganisme et christianisme, sous l'angle de la littérature et de la religion. Il rassemble cette histoire du salut sous le thème des 2 cités, cité de la terre et cité du ciel. Je cite « Ainsi, 2 amours ont fait 2 cités. La cité terrestre, assurément, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste, au contraire, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. » Dernière date, la mort d'Augustin en 430, avec les Vandales qui s'arrêtent devant Hippone. Ils finiront par l'envahir également. Alors, deuxième partie de cette présentation d'Augustin, consacrée à son œuvre, qui sera plus rapide. À sa mort en 430, Augustin laisse une œuvre colossale, plusieurs centaines de sermons, une correspondance de 3000 pièces, plus de 100 ouvrages. Je précise, c'est un point important, qu'Augustin n'écrivait guère lui-même, mais il dictait à ses secrétaires. Il en avait plusieurs, disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Comme beaucoup de génies ou d'hommes politiques, c'était un petit dormeur. Augustin est vraiment un virtuose de la parole, profane et liturgique, littéraire et pastoral. Un orateur formé dans la meilleure tradition gréco-latine et qui a réussi, après sa conversion, l'assomption de sa culture littéraire par l'interprétation des Écritures et l'exercice de la théologie. Alors, je présenterai 5 catégories d'œuvres. La première, ce sont les dialogues philosophiques. C'est un genre littéraire qui est très courant dans l'Antiquité et Augustin commence par écrire ce type de texte entre 386 et 397. On peut citer l'ordre, la vie heureuse, le libre arbitre. À cette même époque, il s'attelle à un ouvrage un peu à part, qui peut être considéré comme un prélude aux confessions. Il s'agit des soliloques, qui sont un dialogue de l'âme d'Augustin avec elle-même. On se trouve à la jonction de 2 genres littéraires, le dialogue philosophique d'un côté, le récit de vie et l'exploration de l'intériorité de l'autre. Les confessions sont composées entre 397 et 401, j'y consacrerai une émission entière. Deuxième catégorie d'œuvres, celle qui consiste à interpréter les Écritures. La Bible est l'occasion d'un grand nombre d'écrits d'Augustin. L'un d'eux, la doctrine chrétienne, réfléchit en amont à l'acte d'interprétation lui-même. Comment lire les textes bibliques? Comment les interpréter? Comment les transmettre et les faire goûter par ses auditeurs? Comment émouvoir, c'est-à-dire littéralement mettre en mouvement ceux qui écoutent et lisent l'Écriture. On trouve d'autres commentaires. Parmi eux, un livre biblique a une importance particulière, le livre de la Genèse, auquel Augustin consacre 4 commentaires. Il y a aussi l'Évangile selon saint Jean, qui donne plusieurs volumes de commentaires, à quoi s'ajoute une étude de la première lettre de saint Jean, qui fait cette année l'objet d'une émission sur Radio Maria. Les œuvres exégétiques sont si nombreuses que je ne peux pas les citer toutes ici, bien sûr, mais j'en retiendrai une dernière, puisqu'elle est incontournable et d'une richesse extraordinaire. Il s'agit des commentaires des psaumes. Augustin est le seul père de l'Antiquité à avoir commenté l'intégralité des 150 psaumes du psautier. Il s'abreuve à la parole psalmique et il s'efforce d'en saisir les multiples sens, pour faire entendre à ses destinataires la portée spirituelle et l'appel missionnaire des psaumes. Troisième type d'œuvre, les controverses et la défense de la foi. Vous avez compris qu'Augustin a traversé des temps compliqués pour l'Église universelle et l'Église d'Afrique. Il a été confronté comme pasteur et comme théologien à des controverses, des polémiques, des schismes. Dans cette position, il a dû, parfois dans l'urgence, jouer le rôle de défenseur de la foi contre divers adversaires, les manichéens, les pélagiens, les donatistes. De là sont nés un certain nombre de traités. Quant à la Cité de Dieu, œuvre fleuve, débutée en 413, elle ressaisit l'histoire humaine selon le dessein divin de salut, j'en ai parlé un peu plus tôt. N'oublions pas deux pans importants de l'œuvre laissée par Augustin, la prédication et la correspondance. Les sermons, on l'imagine, ont été soumis à des aléas qui sont ceux de la transmission des textes dans l'Antiquité. Imaginez les nombreux tachygraphes dispersés un peu partout dans la basilique d'Hippone noire de monde et prenant en note, en sténo, disait-on autrefois, les paroles de l'évêque avec les variations et les erreurs de transcription inévitables. Un exemple des aventures de la réception des œuvres d'Augustin nous est fourni par la découverte en 1990 dans un manuscrit du XVe siècle conservé dans une bibliothèque à Mayence d'une série de sermons d'Augustin authentiques, certains totalement inconnus, d'autres uniquement connus dans des versions brèves. Pendant des siècles, des œuvres d'un des pères de l'Église les plus lus et les plus commentés avaient dormi paisiblement entre deux feuillets manuscrits. C'est un chercheur, François Dolbeau, qui a eu la main heureuse et a permis à la recherche sur les sermons de faire de grandes avancées. Enfin, la correspondance est un lieu intime et officiel à la fois, avec des pièces d'une grande diversité, parfois tellement développées qu'elles sont aussi considérées comme de petits traités, par exemple la lettre à Proba sur la prière. Et il existe quelques anthologies qui permettent de découvrir ces textes. Voilà pour ce parcours un petit peu cavalier sur l'ensemble de la vie d'Augustin et ses principales œuvres.
Juliette de Dieu le veut, non, ne dites pas qu'il est cavalier. Par contre, peut-être pour ceux qui voudraient s'arrêter un peu plus profondément en compagnie de saint Augustin, qu'est-ce que vous conseilleriez comme initiation à lire? Vous avez cité Peter Brown en tant qu'auteur et quant aux œuvres elles-mêmes de saint Augustin.
Alors, je ne peux pas ne pas conseiller de lire les Confessions puisque c'est l'œuvre que je connais le mieux et sur laquelle je travaille et que j'enseigne. Ne pas s'effrayer d'entrer dans un monument de la littérature chrétienne et mondiale. Mais il y a aussi toute une série d'anthologies, notamment des textes qui permettent prier chaque jour avec saint Augustin ou lire une page de saint Augustin par jour. Si on aime ce type de lecture qui pioche un petit peu dans l'ensemble de l'œuvre, on peut se familiariser avec elle.
Vous nous avez promis à la prochaine émission de vous arrêter plus longuement sur cet épisode du jardin, sur la pleine conversion de saint Augustin à la foi catholique.
Oui, c'est un épisode qui est intéressant parce que déjà c'est le sommet de sa conversion. En même temps, c'est assez énigmatique. On a l'impression que le récit des Confessions, qui s'étale sur 8 livres, donc sur, disons, 200 pages, parvient à une apogée dans ce récit du jardin de Milan. Mais on ne sait pas très bien, encore maintenant, ce qui a précisément converti Augustin à ce moment-là. Est-ce que c'est la lecture de l'Écriture? Est-ce que c'est une rencontre plus intérieure avec Dieu? Pourquoi la lettre de saint Paul aux Romains, qu'il lit à ce moment-là, fait-elle sur lui un effet si important? Donc, on se pose encore beaucoup de questions sur ce récit. Et la question principale que l'on peut se poser, c'est la véracité du récit de saint Augustin. Il y a eu beaucoup de disputes là-dessus, parce qu'il écrit ce texte 10 ans après l'épisode. Donc est-ce que c'est un récit recomposé, amélioré pour être plus brillant, plus frappant, ou bien est-ce que c'est le témoignage simple et fidèle d'un homme qui, d'un coup, rencontre Dieu et décide de changer de vie?
Alors, saint Augustin est, pour ceux qui ne le savent pas, l'auteur le plus cité dans le catéchisme de l'Église catholique, à côté de saint Thomas d'Aquin. Mais sans vous livrer trop à nos auditeurs, qu'est-ce qui, pour vous, en fait la puissance, le charme, et certainement pour vivre au sein des Confessions de saint Augustin et auprès de cet auteur majeur, qu'est-ce qui vous touche tant chez lui? Et qu'est-ce qu'il a à dire encore au XXIe siècle?
La première chose qui touche chez Augustin et ce que j'espère partager autour de moi, c'est que au-delà du très grand auteur, au-delà de l'évêque, au-delà du saint, du docteur de l'Église, Augustin se révèle, si on prend la peine d'entrer dans son œuvre, comme quelqu'un à qui on peut se confier. J'ai parlé de lui comme d'un confident. La fides, en latin, c'est à la fois la confiance que l'on fait à quelqu'un dont on sait qu'il ne vous trompera pas, dont on sait qu'il dit vrai. Donc c'est la principale caractéristique de la relation entre l'homme et Dieu. Dieu est celui sur lequel on peut fonder sa foi, sur lequel on peut fonder sa vie. Eh bien, Augustin fait partie de ces personnes, parce qu'il n'est pas un auteur du passé, c'est un auteur pour aujourd'hui, comme vous le disiez. Il fait partie de ces personnes à qui l'on peut se confier pour avancer dans la vie chrétienne, mais tout simplement pour avancer dans la vie, parce qu'il est présent pour chaque moment de la vie, pour chaque expérience. C'est quelqu'un qui a une expérience de la vie assez extraordinaire. Je l'ai dit, il a un parcours qui n'est pas, pour le coup, canonique. C'est un homme qui a connu les plaisirs de la chair, c'est un homme qui a connu, qui a été pendant une dizaine d'années dans une secte, c'est un homme qui a connu à la fois la littérature, les arts. Il a eu une relation avec sa mère qui est assez extraordinaire, qui est à la fois très forte et très compliquée. Donc, on a l'impression que sa vie lui donne une expérience qui peut toucher chacun de nous à chaque moment. Et puis moi, ce qui me touche, parce que c'est ma formation, c'est un styliste. L'auteur, enfin, il a une langue absolument extraordinaire, très belle, très poétique. Et donc, on peut retenir certaines de ses phrases. Et l'Église ne s'en est pas d'ailleurs privée, puisque beaucoup des prières de la liturgie sont inspirées de phrases de saint Augustin.
Et ce saint Augustin, là, vous parliez de la sécurité, de la sûreté qu'il y a de prendre sa main pour cheminer sur le mont de la charité, le mont de la perfection. C'est ce qu'entend l'Église lorsqu'elle parle de docteur de l'Église. Et on pourrait parler de docteur des docteurs, hein, avec saint Augustin.
Oui, saint Augustin, on peut le mettre très très haut dans le panthéon des docteurs. Mais sans donner à ce mot docteur le caractère professoral, le caractère peut-être hautain. Augustin n'est pas un docteur dans une cathèdre assis au-dessus des autres. Il est justement, il fait partie de l'humanité, il fait partie de son peuple d'Hippone et il n'a jamais voulu, comme je le disais, attirer à lui la lumière ni prendre une posture de surplomb. C'est ça aussi qui en fait un véritable ami.
Et c'est cette fibre du cœur qui sollicitait sans cesse chez ses ouailles, ses auditeurs, en convoquant leur charité. Voilà. Votre charité m'a fait cette présence, votre charité. Ben c'est dans cette charité, Juliette, de Dieu le veut, que nous nous faisons une joie de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria France pour, nous avons dit, vous, en entendre un peu plus sur cet épisode du Jardin à Milan. Rendez-vous est pris. Un grand merci, en tout cas, Juliette, de Dieu
merci,
le veut.
Merci, Olivier.
Chers auditeurs, c'était notre émission Saint-Augustin, Augustin d'Hippone, homme de lettres, père et pasteur de l'Église. Vous étiez avec Juliette, de Dieu le veut, vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.